J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour et bienvenue sur Aléa. C'est Régis au micro et aujourd'hui je vais vous raconter une brève histoire des échecs. Une histoire qui s'inspire d'un article publié par Lisa Roucheté dans la revue Science du jeu et qui s'intitule Un ordinateur champion du monde d'échecs, histoire d'un affrontement homme-machine. On va donc retracer non pas l'histoire du jeu d'échecs, mais l'histoire des intelligences artificielles qui ont été conçues pour jouer au jeu d'échecs. Et on verra que cette histoire a tout simplement accompagné le développement de l'intelligence artificielle. Comme je l'annonçais, ce sera une brève histoire, mais une histoire tout de même suffisamment longue pour se dérouler en trois parties. Vous entendrez la première partie cette semaine, qui rappellera l'émergence de la recherche en intelligence artificielle et le développement concomitant du tout premier programme d'échecs développé par Alan Turing lui-même. La semaine prochaine, la deuxième partie de cette histoire retracera l'évolution rapide des intelligences artificielles dédiées au problème des échecs entre les années 50 à 70, avec, disons, deux stratégies de développement qui ont été explorées. Puis vous pourrez enfin nous écouter dans deux semaines pour entendre la fin de cette histoire qui ira jusqu'à la fin des années 90, où la machine a finalement remporté son combat sur l'humain, mais en étant très loin de résoudre le problème que la recherche en intelligence artificielle s'était fixé, à savoir réussir à imiter l'intelligence humaine. Pour comprendre l'histoire de la programmation du jeu d'échecs, il faut la rattacher aux espoirs, mais aussi aux illusions, que les chercheurs en informatique ont eu de pouvoir créer une intelligence qui ressemble suffisamment à l'intelligence humaine pour être capable de jouer convenablement aux échecs contre un être humain, voire, Graal absolu, de battre le champion du monde humain en titre des échecs. L'idée de cette ambition émerge dans les années 50. À cette époque, le terme « intelligence artificielle » n'existe pas encore. Il émerge en fait véritablement en tant que courant de recherche en 1956, lors d'un atelier d'été organisé sur le campus du Dartmouth College, qui réunissait une dizaine de participants qui sont aujourd'hui considérés comme les pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec par exemple Marvin Minsky, Claude Shannon ou encore Herbert Simon. C'est au cours d'une des conférences de cet atelier que John McCarthy va proposer d'officialiser l'usage du terme « intelligence artificielle », tout en dessinant un programme de recherche autour de la question soulevée par Alan Turing en 1947, à savoir « les machines peuvent-elles penser ? » L'objectif de cette nouvelle science devient alors d'essayer de concevoir des machines qui utilisent le langage, manipulent des concepts et résolvent des problèmes de la même manière que des humains pourraient le faire. Cette jeune science va donc prendre pour hypothèse que tout aspect de l'apprentissage ou de l'intelligence humaine peut être précisément décrit à une machine pour que celle-ci soit capable de le simuler. L'intelligence artificielle se fonde par conséquent sur le principe que le processus de pensée humaine peut être mécanisé, et que donc des machines mécaniques peuvent le reproduire. Dans cette toute nouvelle science, le jeu d'échecs, que l'Occident considère comme le jeu intelligent par excellence, se pose naturellement en tant que champ de recherche idéal pour concevoir et tester des machines capables de penser comme des humains. Les chercheurs vont en fait supposer qu'ils arrivent à programmer un ordinateur pour qu'il soit capable de jouer raisonnablement bien une partie d'échecs et que cela signifierait qu'on serait en quelque sorte arrivé à répliquer la structure logique de l'humain dans un autre milieu. Cette volonté de recréer un cerveau humain pour mieux en saisir le fonctionnement se retrouve à la même époque chez le mathématicien et pionnier en informatique John von Neumann, qui voit l'ordinateur comme la conception d'un cerveau artificiel, ou encore chez Norbert Wiener quand il développe la cybernétique et cherche un déplacement de l'humanité dans un autre support. Ces deux hommes inaugurent ainsi, chacun à leur manière, une vision de l'humain en tant qu'être informationnel, dont les qualités essentielles pourraient être transférées vers des machines. Ce sont les tout débuts du transhumanisme. Et c'est exactement au même moment que vont apparaître les programmes d'échecs. Le tout premier programme, qui s'appelle Turochamp, est d'ailleurs créé par Alan Turing en 1951. Alan Turing, qui avait déjà suggéré, lors d'une conférence à la Société mathématique de Londres, d'utiliser le jeu d'échecs pour effectuer des tests en intelligence artificielle. Il a donc développé le programme Turochamp, très basique, mais qui est quand même capable de jouer une partie d'échecs entière. Ne disposant pas d'un ordinateur pour l'exécuter, Turing simule lui-même les calculs de la machine, mettant environ une demi-heure pour effectuer chaque coup. La première partie officielle de Turochamp se déroule en 1952, où il va jouer contre un collègue de Turing et perdre lamentablement. Mais l'histoire des intelligences artificielles ne s'arrête pas là. Elles vont progressivement s'améliorer, en empruntant deux voies de recherche différentes conceptualisées par un autre père de l'informatique moderne, qui n'est autre que Claude Shannon. Mais vous aurez la suite de cette histoire la semaine prochaine.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus.